Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans la tribu, c'est Sacha, Loris, Luan, Amaury, Yanis, Marjan, Noémie, Sacha, Samy et Milan. Dans le cadre de la sortie du film Diamant Brut, nous sommes allés au cinéma Jacques Tati pour le voir en avant-première.
Coucou mes bébés, grâce à l'émission vous allez vraiment m'aimer, je suis un soldat et cette revanche on va la faire ensemble.
Oui, Alexandra Ferrer, je suis directrice de casting pour la société Starshine qui produit des émissions de télé-réalité. Voilà, je vous appelle parce que la vidéo que vous nous avez envoyée nous intéresse beaucoup. Ce serait bien qu'on se rencontre. Vous me rappelez ?
Je m'appelle Liane Pougy, j'ai 19 ans.
Pourquoi tu veux faire de la télé-réalité ?
Oh, ça, c'est ma collègue !
Je vais devenir la Kim Kardashian française, tu vas voir.
Ça, j'aime trop, elle me chavire.
On vous fabrique un bagage pour que vous trouviez un vrai travail.
C'est un vrai travail, la télé. Il y a des contrats, je vous signale.
Je vois pas bien l'utilité de tout ça.
C'est utile, parce que ça fait rêver les gens. Elle, elle fait 15 000 euros par poste.
Sur les réseaux, elle se fait terminer H24.
Il n'y a plus de mauvais buzz aujourd'hui.
Mon destin, je le travaille. Le reste, c'est Dieu qui donne, frère.
On est collègues de galère, toi et moi.
Je me rappelle de toi.
Ça va, le sang ?
T'as fait le casting, là.
On s'est déjà part habillé normalement. On dirait une Barbie.
Regarde, il y a 50 000 personnes qui m'aiment, ok ?
C'est mon corps, je fais ce que je veux.
Je peux faire ton garde du corps.
J'ai pas besoin d'hommes pour me protéger.
Je fais quoi si t'es pas prise?
Si je l'ai pas, je me tue.
Nous avons interviewé Agathe Ridinger, la réalisatrice de ce film, qui a pu nous en dire plus. Nous l'écoutons donc dans la tribu.
Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Alors bonjour, je m'appelle Agathe Ridinger, je suis la réalisatrice du film Diamant Brut, qui sort le 20 novembre prochain.
L'actrice principale de votre film est Manon Kébissi, c'est son premier film. Comment l'avez-vous choisi et pourquoi ?
Malou, elle s'appelle Malou. C'est pas grave. J'ai choisi Malou pour être cohérente avec le film, je voulais que Liane soit interprétée par une comédienne qui n'ait jamais joué. Parce que Liane se sent invisible, donc j'avais besoin que la comédienne n'ait pas de rapport au jeu, d'expérience professionnelle avant. Donc on a fait un casting sauvage. Donc un casting sauvage, c'est quand on va chercher les comédiens dans la vraie vie. On va rencontrer des gens qui n'ont pas d'expérience de jeu, qui ne sont pas comédiens. Et pour Diamant Brut, on a posté une annonce sur les réseaux sociaux. Et il y avait une équipe de casting qui allait aussi à la rencontre de jeunes sur les plages, dans les centres commerciaux, dans les boîtes de nuit pour les rencontrer. Et Malou a répondu à l'annonce et donc on l'a choisie assez vite. On a su très vite qu'elle était parfaite pour le rôle, que c'était elle. Mais après, j'ai pris quelques mois quand même pour m'assurer que, comme elle a le même âge que le personnage, j'ai pris quelques mois pour m'assurer qu'elle était assez mûre, mature émotionnellement et intellectuellement pour encaisser l'expérience d'un tournage et comprendre vraiment de manière très essentielle les thématiques du film et le film pour pas qu'elle se fasse écraser par cette expérience.
Combien de temps a duré le tournage ?
Le tournage, il a duré 32 jours. Et avant ça, il y a de longs mois de préparation aussi. Il y a plusieurs mois de préparation, le temps de réunir toute l'équipe technique, de faire les repérages, les costumes, les décors, etc. Donc une fois qu'on est prêt, on s'est installé pendant 32 jours dans cette région.
Alors moi, je vais rentrer un peu dans ce qui m'a marqué dans le film. C'est que Liane, elle parle souvent de se respecter soi-même, mais les autres estiment qu'en fait, elle ne se respecte pas. Qu'est-ce qui a voulu être dénoncé à travers ce fait que les autres estiment qu'elle ne se respecte pas alors qu'elle affirme qu'elle se respecte ?
En fait, tous les personnages du film, hormis Liane, représentent un peu le regard de la société, différents regards de la société sur ce que Liane incarne à travers son rêve de télé-réalité que beaucoup, beaucoup de gens jugent superficiel, pas intelligent, menant nulle part, et qui la jugent aussi sur son apparence physique, parce qu'elle représente un archétype de jeune fille sur lesquelles qu'on méprise beaucoup, on va leur dire qu'elles sont superficielles, qu'elles n'ont pas de valeur, que c'est des bimbos et cervelées. Et moi, ce qui était important, c'était de montrer que n'est pas du tout ça, qu'elle représente des jeunes filles qui sont absolument pas ça. Donc toute la bataille en fait entre les valeurs de Liane qui dit qu'elle c'est comme ça qu'elle se respecte et les gens qui la jugent, qui ne cessent de la juger, c'est vraiment le poids du regard de la société, de plein d'acteurs de la société qui rentrent en conflit avec elle. Et c'est un personnage qui est vraiment en recherche de dignité et de respect, qui veut s'aimer elle-même et qui veut qu'on l'aime pour ce qu'elle est et pas pour ce que les autres pensent qu'elle devrait être, quoi.
Et donc, pourquoi avoir choisi de tourner dans un milieu défavorisé ?
Eh bien, parce que dans la mesure où c'est un sujet que je voulais traiter avec authenticité pour mettre le doigt sur toute la violence que la télé-réalité et les réseaux sociaux véhiculent, je me suis inspirée, bien sûr, de vrais candidats de télé-réalité. Et le constat que j'ai fait, c'est que les candidats de télé-réalité venaient tous de milieux sociaux populaires, défavorisés. Ils avaient tous une blessure familiale très importante. Et ce qui fait que ce sont des bons candidats pour les productions, parce que ce sont des jeunes personnes qui sont prêtes à tout, parce qu'ils ont l'impression qu'on leur donne leur chance. D'une certaine manière, on leur donne leur chance, bien sûr. Et ils sont prêts à tout, du coup, pour prendre une revanche sociale et une revanche de reconnaissance aussi. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis vraiment ancrée là-dedans. Je voulais que ce soit très authentique.
Quelles sont les valeurs que vous portez dans vos films ?
C'est intéressant cette question parce qu'il y a une jeune fille qui me l'a posée aussi ce matin. Les valeurs que je pose dans le film, j'aimerais qu'on ressente de l'empathie et du respect pour Liane et pour les jeunes femmes qu'elle symbolise, qu'on lui rende justice, des valeurs de respect et d'amour de l'autre et d'arrêter de juger les gens sous prétexte que... qui sont différents ou qui ont des rêves qui ne sont pas les mêmes que les nôtres, quoi, ou qui ne ressemblent pas physiquement.
Pourquoi avoir extrêmement sexualisé Liane ?
Un peu pour la même raison que le milieu professionnel, la question sur le milieu professionnel, parce que Liane symbolise, elle incarne ces candidats de télé-réalité pour lesquels j'ai une réelle fascination et de l'admiration, et qui sont des jeunes femmes qui arrivent avec une représentation féminine hyper féminisée, hyper sexualisée, et qu'elles embarquent avec elles provoquent des questions. En tout cas, moi, elles m'ont fait m'interroger sur pourquoi elles étaient comme ça. Est-ce qu'elles étaient comme ça en réponse à des injonctions patriarcales où on dit qu'une femme doit être belle pour avoir de la valeur, qui est quand même un refrain qu'on entend depuis la nuit des temps? Ou est-ce qu'au contraire, elles ont décidé d'utiliser leur beauté et leur corps comme une armure, finalement, comme une arme pour s'imposer dans la société et qu'on les regarde et qu'elles imposent le respect.
Dans le film, l'actrice a-t-elle vraiment fait le tatouage avec une vraie aiguille ?
Non, ça, bien sûr que non, elle ne l'a pas fait. On appelle ça des SFX. C'est des effets spéciaux qu'on fait sur le plateau. Et en fait, ce n'est pas sa peau, c'est une peau de cochon. Parce que la texture de la peau de cochon, elle ressemble à la texture de la peau humaine. Donc c'est une peau de cochon qu'on a teint à la couleur de la carnation de Malou, et après c'est une vraie aiguille qu'elle plante dans cette peau de cochon, et elle fait semblant évidemment d'avoir mal, mais non bien sûr que non.
Donc ce film est votre premier long métrage après 3 courts métrages. Pourquoi avez-vous décidé de sauter le pas?
Parce que ce sujet sur la télé-réalité et sur l'envie de rendre justice à ces jeunes femmes était un sujet, c'était un besoin que je ressentais de manière très forte, et que j'avais aussi, je ressentais le besoin aussi de parler de la violence qui émane de ces programmes et qui ont été trop longtemps jugés inoffensifs du fait que ce sont des divertissements, alors que c'est des divertissements extrêmement violents qui véhiculent des valeurs extrêmement, extrêmement violentes. Donc je ne comprenais pas qu'on ne s'intéresse pas à ça et qu'on s'interroge pas sur ce divertissement, sur la représentation de la violence aussi. Voilà.
À un moment donné dans le film, on voit qu'elle regarde des commentaires, et il y a aussi à un moment donné des espèces de titres où il y a des... je ne sais pas si c'était justement des commentaires ou pas. Et je me posais la question.
Oui, c'est des commentaires de réseaux sociaux qu'elle lit. Je ne voulais pas que la représentation des réseaux sociaux et des commentaires soit la même qu'on peut voir dans des films ou dans des séries, dans la mesure où Liane, ce qu'elle voit, même si c'est horrible, que ce soit horrible dans la haine ou horrible dans l'amour, qui est un amour démesuré, je voulais montrer qu'elle, c'est ce qui la maintient, c'est ce qui la valide, c'est ce qui lui donne vie, en fait, et c'est ce qui lui donne un peu sa dignité. Et que pour cette raison, comme il y a quelque chose de très noble là-dedans, c'était important de montrer ça de manière... de s'éloigner des codes qu'on connaît et de montrer ça d'une manière beaucoup plus artistique, finalement, et avec une police de caractère qui est avec des sérifs, enfin, et que ça prenne toute la place dans l'image, parce que c'est vraiment l'essentiel pour Liane, c'est la sève, quoi, c'est ce qui va vraiment la faire tenir debout.
Et le fait de présenter une femme forte dans un cadre où elle n'est pas respectée et où elle est hyper sexualisée, est-ce que c'est un moyen pour vous de dénoncer la société ?
Oh bah bien sûr, c'est un moyen de dénoncer la violence de la société, le mépris de la société, le mépris de classe qui est extrêmement prégnant et qui est le socle aussi de la télé-réalité, et de montrer qu'à travers ce personnage hyper sexualisé, elle n'en est pas moins une jeune femme fragile qui ne ressent, enfin, et de montrer qu'hypersexualisation et sexualité et désir n'ont rien à voir, et que les choses sont beaucoup plus nuancées, sont beaucoup plus complexes que ça, et que dans la société, enfin, de plus en plus nos pensées se polarisent et deviennent de plus en plus radicales, donc alors qu'il faut être dans la nuance, c'est très important.
quel est le rapport à la nudité avec les acteurs? Comment est-ce qu'on fait pour que sur le plateau de tournage, on se sente à l'aise?
Ben déjà, on commence par s'assurer que le comédien est d'accord quand il lit le scénario, que ça ne lui pose pas de problème, en théorie, de se mettre nu. Et puis après, on en parle beaucoup. Donc pour moi, c'était très important que Malou comprenne que ce n'est pas un choix qui est gratuit, que ça s'inscrit vraiment dans quelque chose que je veux raconter dans le film, qui est important pour le film. Et après, moi, je lui expliquais comment j'allais là. Je faisais des petits dessins pour lui montrer, voilà, le cadre, ça va être ça. On ne fera pas autre chose. C'est uniquement ce cadre-là. Et voilà pourquoi je veux faire ce cadre-là. Je ne veux pas m'approcher de toi, parce que ce n'est pas en m'approchant de toi que je vais servir le propos que j'ai envie de raconter. Et une fois qu'elle se sent prête et qu'elle est d'accord, on fait ce qu'on appelle des mini-plateaux. Donc, c'est-à-dire qu'on ne garde que les techniciens les plus essentiels à la scène. Donc le chef opérateur, l'ingénieur du son, moi qui suis à côté, enfin, de toute façon j'ai un retour caméra et la script. Et toutes les personnes qui travaillent sur le plateau ont fait tout ce qu'ils avaient à faire avant. Et comme ça, on est en tout petit plateau et les gens ne regardent pas le retour caméra non plus pour lui laisser... de l'intimité. Et donc c'est le socle vraiment pour y arriver, c'est la confiance qu'elle a vis-à-vis de moi et que moi j'ai vis-à-vis d'elle. Mais à cet endroit-là, c'est vraiment, c'est absolument essentiel qu'elle soit en confiance et que je respecte vraiment sa volonté aussi. Je n'aurais pas pu travailler autrement sans la confiance de Malou.
Est-ce que vous pourriez nous raconter une petite anecdote du tournage?
Ah mais j'en ai plein et j'en ai tellement que je ne saurais pas... Si, par exemple, le château que Liane visite avec Dino, qui est magnifique, le palace où elle rencontre la beauté, elle sent plein de choses, elle est comme dans un jardin d'Éden et elle se retrouve face à une mannequin qui représente aussi une autre forme d'exploitation du corps des femmes, de beauté, etc. C'est une scène qu'on a vraiment vécue nous quand on a découvert le décor. On nous avait proposé un premier décor qui ne correspondait pas du tout à ce que j'avais en tête et donc le repéreur nous a emmenés dans ce palace, dans ce palais. Et en fait, on a été soufflés tous, toute l'équipe de repérage, de la même manière que Liane. Et on s'est arrêtés aux mêmes endroits qu'on a filmé. Et au détour, comme Liane, au détour d'un passage, on est tombé nez à nez avec un shooting photo. Donc c'était strictement la même chose qui était écrite dans le scénario. Et ça, je regarde un souvenir. J'en ai plein, bien sûr, mais c'est le premier qui me vient là. C'est de petits coups de pouce du ciel, quoi, qui nous dit c'est le bon décor, il faut y aller. C'est là que ça se passe. L'idée est bonne, il faut creuser. Mais j'en ai plein, des anecdotes, il y en a des drôles et des moins drôles. Je vous en donne une quand même pas drôle aussi, c'est intéressant aussi de savoir qu'il y a des anecdotes moins drôles. C'est le vendeur à la sauvette qu'on voit dans le film quand elles sont en voiture. On a tourné à Fréjus, donc Fréjus c'est une ville assez violente, une ville très populaire et très violente, qui a une mairie RN, donc et c'est une des raisons pour laquelle je voulais tourner à Fréjus. Et ce monsieur qui est acteur, le temps qu'on refasse la prise et qu'on se poste, qu'on reprenne... nos marques et que lui reprenne ses marques, il s'est passé 3 minutes à peine et le temps qu'on revienne, la police est en train de lui faire un contrôle de papier, ce qui montrait bien que j'avais senti que effectivement cette ville était une ville bien violente. C'était abominable à voir et les policiers ne le croyaient pas quand ils disaient qu'ils tournaient un film. Voilà, c'était glaçant.
Est-ce que en tant que réalisatrice, vous pouvez être aussi acteur dans le même film ou pas?
Eh ben, y a plein de réalisateurs et de réalisatrices qui s'amusent à apparaître dans leurs films. Moi, j'en avais pas envie. En revanche, j'ai fait 2 voix dans le film, parce que je trouve ça rigolo quand même de faire les voix. J'ai fait une voix d'influenceuse quand Liane regarde sur son lit et qu'il y a une influenceuse qui lui parle d'un gel intime. Ça, c'est ma voix. Et une voix qu'on n'entend pas vraiment, où elle est dans le palais, justement. Et il y a au loin une voix qui l'appelle Dolce, Dolce. Et comme Dolce, c'est son nom d'instagrammeuse, que voilà. Donc j'apparais dans le film 2 fois de cette manière.
Merci beaucoup.
Mais vous êtes trop sympa, je peux vous prendre en photo, moi aussi.
Ce film va sortir le 20 novembre au cinéma Jacques Tati. Mais le cinéma Jacques Tati, c'est quoi? C'est un cinéma associatif, c'est-à-dire que le but est de subvenir aux besoins du cinéma. Le prix des places est moins cher que dans un cinéma commercial. Jacques Tati est aussi une salle classée art et essai. C'est ce qui explique la différence de programmation avec les complexes de cinéma. Je trouve que cette programmation propose des films plus profonds. Après le visionnage du film, nous sommes allés voir Céline, une des 2 projectionnistes du cinéma. Elle nous a fait découvrir les grandes lignes de son métier. Nous l'écoutons dans la tribune.
Bonjour, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît?
Bonjour, je m'appelle Céline et je suis projectionniste au cinéma Jacques Tati de Saint-Nazaire.
En quoi consiste le métier de projectionniste?
Alors, c'est un métier qui a plusieurs volets. D'abord, ces projectionnistes, c'est des gens qu'on ne voit pas forcément. Ici, la particularité, on nous voit parce que souvent on est à l'accueil, à l'entrée de la salle. Mais le travail se découpe en plusieurs parties. D'abord, il s'agit pour nous de récupérer les films qui sont projetés au cinéma. Récupérer les films, c'est-à-dire les fichiers numériques quand il s'agit de films qui sont en support numérique ou les bobines de films quand il s'agit de films en pellicule. Une fois que la programmation a été faite par le programmateur du cinéma, ici c'est Jean-Jacques, ou Maël pour le jeune public, on prend contact avec les distributeurs. Donc les distributeurs, c'est des petites entreprises en fait qui choisissent de contacter les cinémas pour les faire passer, faire projeter leurs films dans les salles. Donc on prend contact avec les distributeurs pour récupérer donc les films. Et puis après, il y a la partie projection à proprement parler. Chaque jour, on projette ici à peu près 4 ou 5 films.
Quelles sont les particularités de votre métier ?
Oh, il y en a beaucoup. Ben, j'ai déjà peut-être un peu répondu en fait en partie avant, en disant qu'il y a une partie qui est très, qui est assez cachée en fait. Peut-être c'est un métier très technique, mais qui est un métier aussi de passion, parce qu'en fait, tous les projectionnistes, c'est des gens qui adorent le cinéma. On n'est pas projectionniste par hasard. En général, on arrive dans ce métier-là parce que on a envie de comprendre comment ça fonctionne, et puis parce qu'on voit déjà beaucoup dans les salles aussi souvent comme spectateur. Et en fait, je pense qu'un projectionniste, c'est aussi un spectateur. Il occupe tour à tour les deux postes.
Quelles sont les études nécessaires pour faire le métier de projectionniste ?
Alors, c'est un CAP de projectionniste, mais qui n'existe plus maintenant, en fait, qui a disparu il y a quelques années. Et maintenant, justement, avec le numérique, il semblerait qu'on ait considéré qu'il n'y avait plus besoin de cette formation, dans la mesure où c'est beaucoup de travail sur ordinateur. Mais il y a quand même une dimension d'œuvre. Chaque film est une œuvre qu'il faut respecter, qu'il faut projeter dans le bon format, comme je vous disais tout à l'heure, qu'il faut projeter avec le bon volume sonore. Et donc, dans le CAP, on apprenait pas mal de choses, notamment aussi en termes d'optique, comment fonctionnaient les projecteurs, etc. Donc maintenant, il n'y a plus de CAP, il y a des formations qui existent, mais qui sont des formations beaucoup plus brèves que l'était le CAP. Et c'est notamment lié justement à la disparition des projections en pellicule, en fait, qui n'existent quasiment plus maintenant, sauf dans les cinémathèques, dans les festivals, ou dans certains cinémas à réessai comme celui-ci.
Pourquoi avoir choisi projectionniste comme métier ?
Alors, parce que j'adore le cinéma. Ce n'est pas mon premier métier, j'en ai fait plusieurs autres avant. Et celui-là, maintenant, ça fait 5-6 ans que je le fais, à peu près. Et c'est un vrai plaisir, voilà. Mais avant tout, peut-être c'est aussi parce que ce cinéma, là où, ici où je travaille, qui fait partie de la scène nationale de Saint-Nazaire, c'est un endroit où c'est une petite équipe, il y a juste, alors on appelle ça un mono-écran, parce qu'il y a juste une seule salle de cinéma. Mais il y a une super ambiance, une petite équipe qui travaille ensemble, qui s'apprécie beaucoup, qui fait plein de choses ensemble, qui construit ensemble des projets. Et peut-être que si ça avait été dans un autre cinéma, un plus gros cinéma multiplex où il fallait vendre de la confiserie, parce que souvent dans les gros cinémas, les projectionnistes, ils font hélas pas que de la projection, ils font aussi d'autres choses comme vendre de la confiserie, le ménage, enfin tout un tas de choses. Moi, peut-être que j'aurais pas choisi ça. En fait, c'est un petit peu par hasard que je me suis retrouvée là. Voilà.
Qu'est-ce que vous aimez dans votre métier ?
Alors, il y a plusieurs choses. Donc, j'ai déjà dit que j'aimais beaucoup le cinéma. Une autre chose que j'aime aussi, qui est peut-être un peu liée au cinéma Jacques Tati, c'est que je fais la pub. Hein, c'est sincère. Hein, personne ne me paye en plus pour que je dise ça. Mais... Non, ce que j'aime bien ici, c'est qu'on a des spectateurs qui sont, enfin, une partie des spectateurs qui sont des habitués. Et on peut discuter avec eux. Enfin, on peut. Ils nous demandent notre avis parfois sur les films, et puis il y a un vrai échange sur qu'on a aimé tel film ou pas, pourquoi, qu'est-ce qui est bien, etc. Et il y a une vraie relation qui est assez chouette avec les spectateurs qu'on n'a peut-être pas forcément dans des plus gros cinémas. Voilà. J'ai dit aussi tout à l'heure que j'aimais beaucoup l'équipe avec laquelle je travaillais, et puis que c'est un régal de pouvoir voir autant de films, quoi. C'est quand même...
Comment est-ce qu'on lance un film et qu'est-ce qu'on fait pendant le film ?
Alors, comment on lance un film, ça dépend du support du film. Si c'est un film en pellicule en 35 mm, donc ça demande une présence pendant la projection dans la cabine pour bien veiller au bon déroulement de la projection. Parce qu'il peut, comme c'est de la mécanique, c'est pas très très compliqué, mais c'est une mécanique qui peut se gripper un peu plus facilement, disons que quand on a un film en support numérique. Là aussi, il peut y avoir des problèmes parfois. Mais là, on est plus au niveau de l'informatique et de l'ordinateur, donc bon, il faut également intervenir. Mais disons que si on lance un film numérique, vous avez vu tout à l'heure dans la cabine, alors, je ne sais pas si tu faisais partie du groupe où on a lancé le film, en fait, c'est vraiment un clic de souris. On prépare une playlist, c'est-à-dire comme sur vos téléphones ou quand vous faites une liste, enfin une playlist avec des musiques que vous aimez bien. Là, on rentre dans une playlist des commandes qui disent qu'il faut éteindre les lumières de la salle, dans les plafonds d'abord. Après, on met des bandes annonces. On donne la commande d'ouvrir le volet du projecteur, d'allumer le projecteur s'il n'est pas allumé, etc. Enfin, il y a tout un tas de commandes comme ça qui s'enchaînent jusqu'au moment où l'avant-dernière commande, ce sera d'éteindre les lumières sur les côtés. Et puis, le film va partir avec le volume sonore voulu, le format voulu, etc. Voilà. Donc, c'est en fait, il y a un travail à faire en amont. Mais au dernier moment, c'est juste un clic de souris qui fait qu'on appuie sur play et ça démarre et tout s'enchaîne. On peut aussi le faire en manuel, c'est-à-dire qu'on peut aussi tout faire. Tchic, tchic, tchic. Et bien là, ça veut dire que c'est un peu comme ce qu'on faisait avant avec les projecteurs de pellicule.
Et je voulais vous demander si vous gagnez bien votre vie avec ce métier, du coup.
Alors, qu'est-ce que c'est bien gagner sa vie?
Par rapport au SMIC, oui.
Alors, si vous vous souvenez, vous m'avez demandé ce qu'il fallait comme diplôme, comme formation. Je vous ai dit qu'il fallait un CAP. Donc, CAP, c'est un des premiers niveaux de formation, le niveau le plus bas. Donc, en fait, le métier de projectionniste, c'est un métier de technicien qui est assez bas dans la hiérarchie des salaires puisque c'est un technicien. Donc, moi, je suis ici, au Tati, je suis agent de maîtrise. Donc, j'ai un salaire qui est un tout petit peu plus élevé que le SMIC. Donc, c'est pas du tout un bon salaire, mais c'est comme ça.
Est-ce qu'il y a une pression un peu avant de projeter le film?
C'est une très belle question. Je pense qu'à chaque projection, il y a un peu de magie quand même dans le cinéma. D'ailleurs, on parlait de lanternes magiques dans les cinémas des premiers temps, les machines qui étaient avant le cinéma. Et à chaque moment, à chaque projection, même s'il y en a 4 ou 5 par jour, effectivement, il y a une petite pression parce qu'il peut toujours se passer quelque chose qui fait que ça n'ira pas ou ça ne marchera pas et puis qu'il faudra agir vite pour que les spectateurs, spectatrices qui sont dans la salle, ils aient face à eux, à l'écran, ce qu'ils sont venus chercher. Donc, mais c'est une belle question. Ouais.
De quel film vous êtes le plus fier, quel film vous êtes le plus fier d'avoir projeté?
Alors moi, ce que j'aime beaucoup ici, c'est qu'on reçoit souvent des réalisateurs et des réalisatrices. Et ça, c'est des beaux moments. Alors, il y a encore plus de pression quand il y a le réalisateur et réalisatrice dans la salle, parce que il faut pas. Donc, des fois, ça m'est arrivé de faire des petites, parce que j'étais un peu trop, des petites boulettes, oui. Je sais pas. Mais c'est en tous les cas des films comme ça quand il y a les. Comme je disais tout à l'heure, c'est une œuvre d'art, un film. Donc, quand il y a l'artiste qui est là, ça fait plaisir de partager, parce que la plupart des réalisateurs qui viennent ici, c'est des gens vraiment chouettes, qui ont bien conscience que notre travail, il est important. Autrement, leur travail à eux, il n'existerait pas, quoi. Je ne sais pas si vous allez souvent au cinéma, mais c'est vrai que voir un film dans une salle, ce n'est pas du tout la même chose que de voir sur un écran d'ordinateur ou une télévision ou un téléphone. Là, on est beaucoup plus pris à paix. Enfin, c'est des conditions particulières, quoi. Donc, je ne pourrais pas dire un film comme ça, parce que ça ne me vient pas forcément en tête, mais je dirais des séances avec les réalisateurs et réalisatrices qui sont présents.
Combien de personnes il y a chaque jour, à peu près, qui viennent voir? Oui, c'est peut-être.
Alors, ça dépend des jours. Disons que ça dépend des séances également. Moi, là, je n'ai pas travaillé pendant 2 jours, mais lundi, par exemple, on a eu une super journée. On avait une quarantaine de personnes minimum à chaque séance, voire plus de 100 à d'autres séances. Donc, mais c'est difficile non, bien sûr, on peut parler de moyenne, mais c'est difficile de. Chaque jour est différent. Là, c'est les vacances scolaires, donc on a le matin des séances plutôt pour les jeunes, publics, les enfants ou les jeunes. Dans l'année, quand ce n'est pas les vacances scolaires, parfois il y a des séances pour les jeunes, mais du coup ce sont des scolaires qui viennent, des élèves qui viennent de collège, de lycée ou d'école, qui viennent avec leurs enseignants pour voir des films le matin et l'après-midi. Après, on a en gros une séance vers 13h ou parfois midi, 15h, 17h, 19h, 21h à peu près. Voilà, c'est environ 4-5 séances par jour. Donc ça peut monter jusqu'à 300, 400 spectateurs par jour, voire même plus. Quand il y a des scolaires, par exemple. Parce que quand il y a des scolaires, la salle, elle est pleine. Donc, il y a 144 places dans la salle. Donc, ça fait quand même pas mal.
Est-ce que vous avez voulu faire ce métier?
Bah oui. Mais je disais tout à l'heure, c'était presque un. J'avais envie de comprendre comment ça marchait, parce que moi, je suis pas du tout quelqu'un de technique. Donc c'est comme ça, je me suis dit, faudrait que je m'inscrive. J'ai passé le CAP de projectionniste l'avant-dernière année, en fait. Après, je disais tout à l'heure, il a disparu, le CAP. Et j'ai fait ça un peu comme ça. Et puis, donc, pour voir comment ça marchait. Ça me plaisait d'apprendre ça. Et puis, j'ai fait un remplacement ici. Et j'en fais plusieurs remplacements. Et puis, après, il cherchait quelqu'un pour compléter le planning avec Antoine. Et donc, on m'a proposé. Et puis, j'ai dit oui. Et c'était une très belle opportunité.
Merci beaucoup.
C'était Sacha, Loris, Louane, Amaury, Yanis, Marjane, Noémie, Sacha, Samy et Milan. Nous vous rappelons que le cinéma Jacques Tati diffuse à partir du 20 novembre le film d'Agathe Ridinger, Diamant Brut, et à bientôt dans la tribu.